RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Chez les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Vous nous rejoignez pour discuter au 32-16, bien évidemment. On vous attend avec aujourd'hui le cuisinier Yves Candebord, avec Laurent Barton-Martinez, sophrologue, et Barbara Lefebvre, enseignante en histoire-géographie. C'est la deuxième heure des GG qui démarre. Tout à l'heure, à 10h30, on va s'intéresser à cette proposition des chefs d'entreprise, diminuer les allocations chômage après plusieurs mois, c'est-à-dire aller plus loin dans la dégressivité pour remettre les gens à l'emploi. Est-ce qu'il faut en passer par là? En attendant, on va continuer de regarder les dossiers Epstein. Dossier Epstein à travers cette histoire de ce diplomate. Parce que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est dit lui-même effaré et indigné après ces révélations sur cet homme qui travaillait aux Nations Unies et qu'il a fallu exfiltré parce qu'il consultait des fichiers pédopornographiques.
Oui, il y avait deux choses en fait. On apprend donc que Fabrice Hédan, ce diplomate, a toujours gravité dans l'orbite proche de Jeffrey Epstein. Il faisait bénéficier aux millionnaires américains des informations diplomatiques, de services, bon bref, et de son réseau à l'international. Et puis par ailleurs, il y avait eu cette enquête du FBI en 2013 pour des consultations de sites pédopornographiques. Visiblement, ces consultations étaient avérées, à tel point qu'à l'époque, alors il travaillait, il n'était pas directement au Quai d'Orsay, il travaillait pour les Nations Unies à l'époque, et son patron c'était Gérard Haro, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Gérard Haro, on le voit beaucoup sur les plateaux télé, l'ancien ambassadeur, et Gérard Haro a confirmé effectivement ces infos, il a confirmé avoir été informé par le service de sécurité des Nations Unies que le FBI leur avait transmis un rapport disant que Fabrice Hédan avait accédé à des sites pédopornographiques, donc il avait décidé de renvoyer Hédan en France pour qu'il soit traité, dit Haro, à la fois légalement et psychologiquement par le ministère des Affaires étrangères. Et Gérard Roux dit après, moi je n'étais pas responsable des suites qui ont été données à cette affaire. Ah, visiblement, oui. Il n'y a eu aucune suite, il n'y a pas eu de suivi psychologique ni de poursuite en France. Et ce monsieur Hédan a continué sa carrière. Il a été détaché dans plusieurs fonctions. Il était à l'UNESCO.
Eh oui.
C'est quand même fort de café pour quelqu'un qui regarde des sites pédopornographiques. L'UNESCO, il s'occupe des enfants à travers le monde. Et puis, il a terminé sa carrière, je dis terminé parce qu'il vient d'être suspendu, chez Engie. Il était d'ailleurs dans la délégation Engie lors du voyage d'Emmanuel Macron au Maroc en 2024. Et là, Engie vient de suspendre ses activités.
Gérard Haro dit bien, textuellement, dans un entretien qu'il a accordé aux Parisiens, j'ai lu le rapport remis par le FBI. Il était signalé que M. Hédan avait eu accès de manière répétée à des sites pédopornographiques, mais qu'il n'y avait pas eu d'acte, effectivement.
Oui, alors c'est ça.
Donc,
c'est-à-dire que Gérard Haro dit il n'y a pas d'acte. Bon, d'ailleurs, il n'en sait rien, puisque il n'avait pas. Dans ce cas-là, il fallait peut-être.
Faire une enquête.
Investiguer. Et c'est là où, en France, il ne s'est rien passé. On est en 2013.
Oui, il a dit, j'ai fait ma part. Ils l'ont quand même renvoyé en 48 heures.
Oui, oui.
Donc,
oui,
il y avait urgence. Il y avait quand même urgence.
C'est des comportements sur un territoire étranger qui la fout mal. Ça fout mal pour un diplomate français. Donc, il a été renvoyé. Et puis derrière, il ne s'est rien passé. Et il a continué sa carrière.
Alors, est-ce que c'est. Gérard Haro continue. Et après, c'est le Quai d'Orsay qui a géré cette affaire. Alors, effectivement.
Ou pas géré.
Lui, il dit, moi, j'ai fait ma part. J'ai signalé.
Géré comme
dehors,
ça les arrangeait.
Tu vois. Laura?
Non, c'est géré comme ça les arrangeait. Enfin, je veux dire. Il y a une phrase toute simple en français qui dit qui ne dit mot consent. Donc, il a eu un rapport entre les mains. On est d'accord, c'est le Quai d'Orsay. On ne parle pas de
Monsieur Haro. Non, c'est
d'accord,
le Quai d'Orsay.
Ouais. C'est le Quai d'Orsay qui a eu un document comme ça entre les mains et qui laisse cette personne en totale liberté. Enfin, il y a quand même des échanges entre Monsieur Hédan et Monsieur Epstein où il est écrit que Monsieur Epstein demande des visas à Monsieur Hédan. Mais pourquoi faire les visas? On se demande pourquoi on a besoin de passer par un copain pour demander des visas. Ben, peut-être pour des mineurs qui viennent comme ça sans leurs parents. Mais encore une fois, je suis désolée, je vais citer un article qui est sorti de Marianne, qu'on prendra avec des pincettes, avec des précautions, on attendra de voir si c'est vrai. Apparemment, monsieur Dupond-Moretti avait ces éléments depuis plus de 6 ans. Mais tant qu'on ne comprendra pas en France que certains politiques, que certains magistrats couvrent des réseaux de pédocriminalité, que c'est une institution.
C'est une accusation qui est grave, ça, de dire qu'ils couvrent. On sait pas qui couvre.
Ah bah, pardon.
Ni pour rien. Bah, si tu n'interviens pas, tu couvres.
Bah si. Pardon.
Ça veut pas dire que toi-même, tu es complice.
Bien sûr.
Mais si tu n'interviens pas, si tu laisses un type qui est quand même dans ton ministère,
non, je vais te donner un exemple.
Qui consulte des sites pédopornographiques, il se passe rien.
Je te donne un exemple tout simple. Dans le restaurant qu'on a tenu avec mes parents, on a licencié un salarié pour harcèlement sexuel auprès de nos femmes qui étaient dans notre restaurant. J'ai vu ensuite qu'il avait posté ce monsieur et qu'il avait travaillé pour des gens que je connaissais. J'ai appelé ces gens, je leur ai dit faites attention à cette personne-là. Donc à un moment donné, je suis désolée, quand tu te tais, qui ne dit mot consent? Si tu te tais, c'est que tu es d'accord avec le principe. Et c'est pas maintenant que le truc explose qu'il va se faire dorer la pilule en disant « Non mais je suis désolée, j'étais au courant, mais après on n'a pas suivi. Pardon, tu savais que ce mec-là, il se tripotait devant des images d'enfants, tu laisses pas ce mec-là en liberté se promener et faire sa vie. Et d'autant plus quand ensuite on sait qu'il y a eu des relations avec monsieur Epstein. Tu fais le rapport. Je suis désolée. Il y a aucune excuse. Encore une fois, on a la preuve que certaines personnes dans notre gouvernement, que certaines personnes dans nos institutions judiciaires laissent passer ce genre d'événement. On en a la preuve tous les jours.
Yves.
Bon, ce gars, il est malade. Moi, c'est un malade, faut le soigner. Bon, c'est comme ça, il est détraqué. Et les gens qui couvrent ça, les gens qui couvrent ça, que ce soit les ministres, que ce soit les préfets, tout ce que vous voulez qui ont couvert ça, qui sont pères de famille, qui ont des enfants. Et je me dis, comment ils peuvent faire? Comment c'est possible? Comment c'est possible quand t'es père de famille, que t'éduques tes enfants?
Malheureusement, les affaires pédocriminelles, c'est essentiellement dans le cercle familial
de couvrir de tels actes. Mais ces gens-là, il faut les sanctionner. Ils sont malades.
Oui, mais là, on est dans le pas de vague.
Il faut qu'on arrête le lisse, on a peur. C'est des enfants, on touche pas aux enfants. C'est pas possible. Comment un être humain bien constitué peut accepter de couvrir quelqu'un qui touche aux enfants?
Oui, non, mais
ce n'est pas possible. On marche totalement sur des... Et que ce soit pour des raisons X ou Y, de politique, de famille, tout ce qu'on veut, on peut pas toucher aux enfants.
Parce que malheureusement,
c'est notre base.
T'as quand même plus de...
C'est notre vie, quoi. On peut pas. Moi, ça me paraît complètement surréaliste qu'on accepte ça et que ces gens-là qui ont couvert, on va les laisser en toute impunité.
Ils vont être entendus, là.
Oui,
là.
Mais on va rien leur faire.
Il
y a une commission d'enquête parlementaire qui est demandée. Par notamment les insoumis, mais Madame Braun-Pivet pour l'instant s'y refuse.
Elle se justifie.
Ça vaudrait peut-être le coup d'écouter Jack Lang, d'écouter ce monsieur, d'écouter tous ces gens qui s'expliquent,
d'écouter les ministres en place à l'époque. Enfin là pour le coup ça touche la France et les intérêts français.
Tout à fait. Mais je rappelle qu'Emmanuel Macron il y a 2 jours a été interrogé sur cette affaire. Il a dit que c'était surtout une affaire américaine. Alors c'était avant qu'apparaissent ces dernières infos. Je pense que son intervention était un peu prématurée.
Juste,
Jacques Lang, il est américain.
Si on l'a fait partir dans les 48 heures, donc si je comprends bien, c'est-à-dire avant que le FBI en fait ne décide éventuellement de poursuivre ou de l'arrêter, si on l'a fait partir en urgence.
Diplomate est quand même protégé. Il est diplomatique, et tu peux pas le poursuivre comme ça.
Oui, car je crois qu'au moment où nous parlons, il y a des diplomates étrangers en France qui pratiquent par exemple l'esclavage moderne à l'intérieur des ambassades et que je crois qu'on ne fait rien pour les arrêter, alors que je crois que l'esclavage a été aboli en France. Donc vous savez, le monde de la diplomatie, c'est le monde du secret. C'est le monde des petits arrangements.
De l'impunité.
Pas seulement des petits arrangements entre amis, mais aussi des petits arrangements stratégiques qui font que on est en pourparler avec tel ou tel pays, on va pas aller se les mettre à dos. Donc il y a des enjeux qui dépassent la question des délits, voire des crimes qui peuvent être commis par certains diplomates. Alors excusez-moi, si vous connaissez l'histoire de la diplomatie depuis l'Antiquité, enfin franchement, faut vraiment avoir l'air les pudeurs de gazelle de certains hommes politiques ou journalistes qui oh là là, mais je suis très étonnée, mais comment c'est possible? Dans le monde politique, il se passe des choses comme ça, dans le monde diplomatique, que des gens se couvrent parmi les puissants, et nanani nanana. Et alors, les 80% des échanges d'Epstein si je ne m'abuse, j'ai pas regardé les 3 millions, mais comme apparemment il y a des gens maintenant, leur grande passion, c'est de taper des noms. Hein, j'ai même vu un représentant des démocrates aux États-Unis. Alors, il a dit que le nom de Donald Trump était sorti 1 million de fois. Après, il a été obligé de se reprendre. Il a dit, oui, c'est vrai que j'ai juste tapé Donald ou Don. Alors, c'est sûr que si tu tapes que Donald et Don, tu vas avoir beaucoup de Donald qui sortent des échanges Epstein. Donc maintenant, 80% des échanges, c'est que Epstein jouait les entremetteurs sur des questions de mondanité. Prête-moi ton appart, prête-moi. De fric, prête-moi de l'argent. De business, de trafic d'influence. Ça, c'est vrai. Je pense, par contre, que le volet pédocriminel n'est peut-être pas aussi énorme que les 3 millions de mails. Maintenant, c'est normal que quand il y a des problèmes de pédocriminalité, on arrête les personnes et qu'on les juge. Donc, ce Fabrice Hédan, il est important aujourd'hui que cette affaire soit judiciarisée et que toute personne, y compris au sein même peut-être du parquet, parce que le parquet a été informé, doivent rendre des comptes. Maintenant, pendant que on occupe les médias matin, midi, soir, avec les mails de machin, les mails de trucs, de peut-être que, il y a des enfants à la mairie de Paris qui ont été victimes d'animateurs du périscolaire. Il y a un criminel, comme on en a rarement vu, qui s'appelle Pierre-Alain Cotineau, qui avait organisé des orgies pédocriminelles avec des enfants handicapés et qui avait reçu de la PMI et de l'ASE le droit de garder des enfants sous prétexte qu'il était aide-soignant et que lui-même avait une enfant de 4 ans qu'il avait en garde alternée avec un couple de femmes.
Il y a un appel à témoins qui est lancé d'ailleurs.
Voilà, puisque lui, il était militant LGBT. C'est d'ailleurs un ami, puisqu'il était aussi militant LFI, un ami d'Andy Kerbrat, celui qui s'était fait choper en train de dealer de la drogue pour des séances chemsex. Donc, moi, j'aimerais bien, puisque la LFI veut qu'on ouvre une commission d'enquête, va falloir aussi venir nettoyer tout ça, parce que c'est bien joli d'aller regarder de l'autre côté de l'Atlantique et de dire Epstein, tout les 4 matins. Je suis tout à fait d'accord. Il va falloir aller creuser là-bas. Mais il va falloir creuser ici aussi. Parce que entre les sénateurs qui droguent leurs collègues pour les violer. Un sénateur. Oui. L'autre là, le Cotineau, qui se permet.
Un homme.
Voilà. Homme là, dans un réseau.
Particulier.
Heureusement que la police néerlandaise ou allemande a arrêté le mec pour qu'on trouve. Parce que je vous invite à lire, mais sauf si vous avez envie de vomir, l'article du Figaro qui raconte ce qu'a fait ce Pierre-Alain Cotineau et toute la clique des gens qu'il a invité chez lui à faire.
C'est dégueulasse.
Excusez-moi, ça, oui, c'est des enfants victimes en France.
Oui, mais là, on n'a pas besoin de faire une commission d'enquête.
Les animateurs du périscolaire. Moi, j'entends les animateurs du périscolaire ont été licenciés. J'espère que c'est judiciarisé surtout. Parce que vous mettez votre enfant à la garderie à Paris, ce n'est pas pour se faire embrasser sur la bouche par un gros dégueulasse.
Ça ne l'est pas, Barbara, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les signalements ne sont pas inscrits au casier judiciaire. Donc, en fait, il est viré d'un établissement Paris 5.
Ils ne sont pas virés de la mairie de Paris.
Et il se retrouve dans un arrondissement Paris 18. Donc, et voilà.
Ou alors, non, c'est mieux. Ils sont payés, mais ils ne travaillent plus. Oui. C'est-à-dire que certains sont depuis des années en attente d'un procès.
Moi, j'ai toujours vu la radicalité quand c'est des enfants.
Et on avait vu l'ASE d'un département qui accordait des gardes d'enfants à des gens qui, justement, étaient connus ou en tout cas soupçonnés de comportements maltraitants avec des dimensions pédocriminelles. Donc, excusez-moi, je veux bien qu'on s'emballe matin, midi, soir sur l'affaire Epstein, mais j'aimerais bien qu'on regarde les problèmes de la pédocriminalité.
L'un n'empêche pas l'autre.
Aujourd'hui, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, j'entends surtout beaucoup parler de l'affaire Epstein sur lequel il y a d'abord pour l'instant énormément de soupçons. On a des appels tous les 4 matins, même Madame Bréjon. Nous appelons les femmes à se manifester. Pour l'instant, il n'y en a pas en France.
Il n'y a pas que des soupçons, Barbara.
J'ai pas dit ça, mais en France, pour l'instant, il n'y a pas eu de jeunes filles de 10 ans en train de faire des massages de pieds à Epstein au 22 avril.
Peut-être qu'une affaire aussi médiatique que celle d'Epstein va pouvoir créer des précédents.
Que tu crois ?
Pourquoi que je crois ? J'espère, pardon. Moi, je parle à chaque fois, je crois qu'il n'y a pas une émission que je n'ai pas faite en disant qu'il faut enfin mettre en ligne un fichier où les signalements, où les accusations de viol ou de pédocriminalité soient inscrites. Et je le répète. Et ben peut-être que là, avec tout ce qui est en train d'exploser, Epstein, Lang, Brunel, Hédan et toute cette petite clique, plus maintenant les affaires qu'il y a dans le périscolaire, parce que là, ça démarre. Mais combien il y a de mamans qui sont en train de se réveiller?
Là où je peux rejoindre quand même Barbara, sur l'affaire du périscolaire parisien. qui est un véritable scandale, qui touche quand même. Là, là on n'est pas loin d'un système, parce qu'il y a des dizaines d'animateurs qui sont quand même soupçonnés d'agressions sexuelles sur des petits. Hein. Ah. On parle de maternelle, etc., de primaire. Bon, c'est vrai qu'on en parle moins que l'affaire Bétarame. On a fait beaucoup sur l'affaire Bétarame. Ah. On a eu raison.
Ça touche Bayrou.
Il y a eu une commission d'enquête. Bayrou a été mis sous le grill et tout ça. C'est vrai, je suis assez d'accord que sur le périscolaire parisien, on n'en est pas là. Alors pourquoi? Je m'interroge. Pourquoi la mairie de Paris n'est pas plus inquiétée? On est en campagne municipale. Alors je vois que les candidats s'invectivent là-dessus, mais font des promesses
Est-ce qu'il faut que la loi change, malheureusement, de formation et autres. Tu veux qu'il va... Alors, je veux pas défendre quelques mairies que ce soit, parce que je pense que ce qui se passe à Paris, ça doit se passer dans le Lot-et-Garonne, ça se passe partout. Mais T'as quoi comme information? C'est pas inscrit au casier judiciaire. Il n'y a pas de fichier que les organismes qui accueillent des enfants puissent consulter. Il n'y a rien qui est fait.
Il faut pouvoir croiser les fichiers.
Il n'y a rien qui est fait. Donc comment veux-tu que la personne qui tient un truc
scolaire... Mais c'est facile, c'est la castration chimique. C'est donc...
Oui, mais
t'as touché un des gosses à un moment donné. Il n'y a pas de cadeau à faire.
Mais ça, c'est après coup. L'idée, c'est quand même de protéger les...
On les soigne pas, on les laisse.
Ça, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'il faut réfléchir à un système pour éviter que la personne qui aime les petits enfants arrive au contact des enfants.
Parce que là, la castration chimique...
Moi, je suis d'accord pour la castration à la machette, si on n'a pas...
Calmez-vous. La castration chimique, d'accord, mais c'est une fois qu'on arrive à une condamnation. Quand même, je pense que les parents d'élèves veulent simplement que leurs enfants soient protégés de toute agression.
Juste une précision, la castration chimique ne peut se faire qu'avec l'accord de la personne. Ouais. Donc, si la personne vous dit « je ne veux pas »,
on change la loi.
On lui demande pas son avis, Barbara. On lui demande pas son avis, Barbara.
Je suis bien d'accord avec toi, mais pour l'instant, c'est la loi.
On lui demande pas son avis. Mais la loi, on la change.
Mais la loi protège, tu comprends? Parce que maintenant, on nous explique peut-être que ces délinquants sexuels, c'est des malades. Moi, j'entends, aussi, là, quand je lis
le
dossier...
Mais on le soigne, c'est une façon de le soigner.
Quand je lis le dossier de M. Cotineau et le handicap brat, il nous a fait la même chose. Ah oui, mais moi, j'ai eu des problèmes. Ah oui, mais moi, j'ai eu des machins. Donc, ces gens-là, ils sont tout de suite, ils font sonner la petite musique du « j'ai été victime ». Le Cotineau, en l'occurrence, il a commencé à l'âge de 10 ans à agresser des enfants qui étaient gardés chez lui. Donc, excuse-moi.
J'aimerais
dire qu'on en parle plus de cette affaire-là parce que,
là, on vient d'en parler.
À mon avis, ça aussi, quand on va creuser, ça va être bien dégueulasse. Bon, mais les médias en parlent beaucoup moins aussi, que l'affaire Epstein.
Puisqu'on parle des révélations d'affaires, il y a aussi celle qui a éclaté grâce au parquet de Grenoble, celle de Jacques Leveugle.
Parlons pas de ça.
89 ans, plus de 75 ans.
Carrière pédophile.
Oui, carrière pédophile qui est sur 89 victimes sur 5 continents et puis garder tout sur ses clés USB. Il consignait tous ses viols et tout ce qu'il avait fait. Et là, pareil, le parquet de Grenoble lance un appel à témoins. On est donc sur l'affaire Epstein, diplomate français impliqué. Est-ce que vous pensez que l'affaire a été étouffée? On en parlera dans un instant.
Évidemment,
avec Laurent, au 32-16, il est dirigeant de société, il nous appelle du sud de la Corse. À tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
On va continuer nos discussions, notre débat autour de l'affaire Epstein, de ses ramifications, notamment qui touchent maintenant le Quai d'Orsay. C'est Laurent qui veut donc en parler avec nous. Il nous appelle du sud de la Corse, de Belvédère, Campomore. Bonjour.
Calmez-vous.
On va s'arrêter deux secondes sur l'extase. Donc,
oui, Belvédère, Campomore. C'est beau.
Barbara.
C'est beau, la Corse.
C'est vers chez moi, ça.
C'est pas loin de chez Laurent.
C'est à côté de Compriane, oui, tout à fait.
Oui, c'est magnifique.
Alors, Laurent, vous êtes dirigeant de société, c'est ça, dans le sport, dans le secteur du sport.
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, de ces ramifications et là de...
Je suis un peu abasourdi. J'essaye d'avoir toujours un regard un peu objectif sur l'actualité, de rester éloigné de toutes les sphères complotistes qui parasitent les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je ne sais plus quoi penser. En fait, tous les jours, il sort un truc, il sort une personne, il sort un nom, il sort... Et je me demande jusqu'où ça va aller. Et j'ai bien peur que plus ça monte au plus haut niveau de l'État, plus la protection se renforce entre eux. Et qu'au final, ça se finisse, que la casserole, elle va tellement bouillir qu'on va mettre le couvercle. Ça va un peu déborder, mais juste ce qu'il faut. Et ça va s'arrêter là. Enfin, je ne sais pas, en fait. Mais je suis atterré de voir toute cette classe politique qui se protège. La personne dont vous parlez tout à l'heure, on sait qu'il a un comportement déviant, mais bon, c'est pas grave, on le recase là, on le replace là, on se tait, on met un peu le coup. C'est plus possible. Ce n'est plus possible. Alors je vous dis, je suis très loin de cette sphère complotiste. Je ne veux pas entendre parler, soi-disant, que Epstein était dirigé par le Mossad, qui a voulu déstabiliser le monde. Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais je suis atterré et je vous remercie, vous, les GG, d'en parler, parce que vous en parlez. Ça fait du bruit, mais dès que vous fermez la porte des GG, ben voilà, le bruit, on le voit un peu sur quelques chaînes d'info en dur. Mais
alors ça, là où vous avez raison, Laurent, c'est qu'il faut pas, justement, il faut continuer d'en parler, il faut continuer que la pression monte, parce que sinon ça va faire l'effet médiatique. Vous savez, c'est-à-dire que certains vont se dire ça va monter très fort et puis après on va oublier, on peut passer à autre chose. Or là, on ne doit pas passer à autre chose avec cette affaire. Il faut savoir s'il a été protégé, s'il a été exfiltré. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu de suivi psychologique? Apparemment, il n'y en a pas eu. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu ouvrir d'enquête? Ça se passait aux États-Unis. On va dire, bah écoutez, les Américains n'ont pas ouvert d'enquête, donc finalement, nous, il avait plutôt à être mis de côté, à être soigné, à être sorti, quoi, vous voyez.
Parce que malheureusement, on se base contre quelque chose qui est énorme. Il y a énormément de pays encore, je pense. Faudrait regarder, mais je pense qu'il y a plus de pays où finalement, se marier ou être attiré par une jeune fille ou un petit garçon, c'est pas si grave que ça. Je pense à des pays où on descend l'âge du mariage pour les enfants, où on marie des gamines qui ont 7-8 ans.
On va t'expliquer que c'est culturel. Mais
c'est justement parce que c'est culturel que c'est grave. Je pense aussi dans les pays, excusez-moi, juste je finis, il y a des pays asiatiques, alors là, il y a peut-être pas l'acte en soi, mais c'est quand même extrêmement dérangeant. Il y a des pays là où avec les trucs de K-pop, les groupes de gamines qui à 14 ans deviennent complètement obsolètes, ou carrément.
C'est au Japon.
C'est au Japon, où il y a des personnes, des hommes, alors ce ne sont que des hommes dans les tribunes, qui ensuite font la queue pour pouvoir toucher leur idole qui a 14 ans. Et on prend des gamines qui se ressemblent toutes, qui sont d'une maigreur. Donc on se bat contre quelque chose. On n'imagine pas la gravité de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'un pédocriminel qui pourra plus faire sa vie en France, il va partir ailleurs et il pourra continuer de sévir parce que ce sera normal là où il évolue. Donc malheureusement, on doit être drastique.
Laura, tu peux pas sauver le monde. Là, il faut arrêter avec ça. Tu peux pas sauver le monde. Tu as raison à 100% de ce que tu dis. Mais on est en France.
On
est français.
Voilà, mais Laurent, qu'est-ce qui garantit qu'on va savoir et qu'on connaîtra la vérité?
Regardez.
Qu'est-ce qui garantit que cette affaire, si tu veux, on ne mettra pas le couvert dessus?
Mais je suis d'accord, mais la question, c'est comment se fait-il qu'il ait fallu attendre l'affaire Epstein? Quand on voit l'affaire aujourd'hui en Angleterre, Keir Starmer, lui-même n'y est pour rien. Il est juste tenu par un de ses chefs de cabinet, là, Mandelson, etc. OK. Et donc maintenant, pour une histoire où, pour le coup, Starmer n'est pas pour grand-chose, par contre, toute l'affaire des gangs pakistanais qui ont violé pendant des années des centaines de jeunes filles au Royaume-Uni, dont certaines ont été mariées mineures à leurs violeurs, avec l'accord des autorités locales, l'équivalent de l'ASE local, ça passe crème. C'est-à-dire que ça, pas de problème. Quand, dans le même pays, le Royaume-Uni, on a des médecins qui écrivent un article justifiant en disant « c'est quand même pas normal toutes ces campagnes contre l'excision, parce que vous comprenez, c'est des questions culturelles, on peut pas vraiment se mêler de ces sujets-là, parce que nous, c'est pas dans notre culture, mais c'est peut-être dans la leur ». Tout ça, ça fait partie d'un même ensemble. Donc moi, je veux encore bien qu'on s'occupe de la pointe émergée de l'iceberg avec Jeffrey Epstein. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que vraiment on aille nettoyer. Parce qu'encore une fois, toutes les jeunes filles pauvres du Royaume-Uni qui se sont fait violer, on n'en a rien eu à faire. Toutes les gamines du fin fond des campagnes ou les enfants handicapés de l'autre taré de Cotineau, on s'en fout parce que ces gens-là, c'est pas le Quai d'Orsay, c'est pas Jack Lang, c'est pas machin.
La prostitution des mineurs à l'ASE aussi.
La prostitution des mineurs à l'ASE dans les foyers, etc. Avec parfois, il peut arriver que certains éducateurs aient un jeu qui soit trouble. Donc moi, je suis désolée, j'aimerais bien que cette affaire soulève tout le reste.
Alors,
et qu'on puisse nettoyer les écuries d'Augias. Mais je crains qu'encore une fois, on se contente
de l'écume.
Parce que c'est plus intéressant, ça permet de taper sur les élites. Ah, ça c'est bien. Et puis comme ça, le peuple aussi se fait une bonne conscience à peu de frais. Mais excusez-moi, il y a des choses bien dégueulasses à tous les étages.
Une affaire pour l'autre, il faut justement que ce soit global. Et puis là, justement, s'il y a les élites qui sont mêlées, c'est encore plus exemplaire. Si tu veux, mais si, Laurent, on va en parler avec Nathalie Buquet, qui
Laurent.
Est avocate de l'association Innocence
bon
en Danger. Bonjour, Nathalie Buquet. Bonjour, Maître Buquet. C'est vrai qu'on a cette affaire. Il faut aller au fond des choses, savoir s'il y a effectivement, l'affaire a été étouffée en ce qui concerne le fonctionnaire du Quai d'Orsay ou pas, quoi.
Alors, concernant le fonctionnaire du Quai d'Orsay, voilà, on a aujourd'hui cette information, comme quoi la France, les autorités françaises avaient été informées de ces consultations d'images pédopornographiques, information qui avait été transmise par le FBI. C'est vrai que les Américains sont toujours très réactifs sur ce sujet et informent régulièrement les autorités françaises dès lors qu'un ressortissant français commet ce type de fait. Effectivement, on peut s'attendre, surtout de la part d'un diplomate, à ce qu'on ait une réponse française dès lors que cette personne retourne sur le territoire français. Bon, ça n'a pas été le cas. Je pense qu'il est important qu'on comprenne pourquoi, parce que ce monsieur aurait pu être poursuivi. Aujourd'hui, voilà, c'est aussi une infraction qui est davantage réprimée. À l'époque, elle l'était moins, et malheureusement. Mais c'est vrai que cette consultation, elle interroge. Dès lors que, quand on traite un peu de ces questions de pédocriminalité, on sait que il y a très souvent une corrélation entre une consultation, si elle est habituelle, une détention.
Oui, parce que Gérard Araud, qui était son chef, son supérieur à l'époque, l'ambassadeur de la France auprès des Nations Unies, dit il n'y a pas eu de passage à l'acte. Alors je ne sais pas d'ailleurs sur quelle base il peut affirmer cela, mais c'est un peu léger. Je veux dire, pourquoi n'y a-t-il pas eu, une fois qu'il est renvoyé en France, au sein au moins déjà en interne, une enquête pour savoir précisément ce qui se passait dans l'ordinateur de Fabrice Hédan et dans sa vie?
Alors effectivement, bah, mais ça j'ai pas la réponse, je suis tout comme vous, mais c'est vrai qu'il serait, je pense, très utile, ne serait-ce que pour le public et puis l'ensemble des Français, de comprendre pourquoi, pour pas qu'on donne ce sentiment d'impunité à ces élites dès lors qu'elles trempent dans ces affaires. Je pense que c'est vraiment l'écueil dans lequel il faut pas tomber. C'est-à-dire que je crois que c'est la raison pour laquelle, en tout cas, Innocence en danger, interpelle depuis plusieurs jours en disant on veut une réouverture d'enquête, on veut une réouverture d'enquête, pour ne surtout pas laisser penser qu'aujourd'hui, ces affaires, dès lors qu'elles concerneraient une élite, ne soient pas traitées. C'est vraiment un signal fort qui doit être envoyé de la part de la France. C'est de dire que dès lors qu'on a une suspicion de crimes sexuels qui ont été commis en France, et notamment à l'égard de mineurs, possiblement, eh bien, il y a une volonté de faire la lumière sur toute cette histoire. Il y a une volonté de pouvoir poursuivre ceux qui seraient coupables. Et il faut absolument qu'on puisse avoir...
C'est une impunité. Moi, je parlerais de complaisance. Il y a eu pendant trop d'années, pardon, et vous le savez mieux que moi, une complaisance chez une certaine élite. Par exemple, une élite littéraire, Gabriel Masneff. Gabriel Masneff avait pignon sur rue, était invité dans des émissions littéraires. On peut en citer d'autres. On parlait de Roger Perfit ce matin entre nous avec Alain. Alors, je ne sais pas si les gens se souviennent de Roger Perfit, qui était un écrivain aussi,
qui
racontait comment il avait des relations sexuelles avec deux jeunes garçons très mineurs. Et il y avait une complaisance. Il y a eu une complaisance dans le milieu culturel, il y a eu une complaisance peut-être aussi dans le milieu politique, et là maintenant on se dit peut-être que dans le milieu diplomatique également.
Il y a des gens qui nous expliquent.
C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a une pression qui est mise pour dire on veut une enquête, on veut savoir ce qui s'est passé, et qu'en quelque part on veut qu'on nous rende des comptes. Donc attendons de voir un petit peu ce qui va se passer, et puis surtout, après, ce qu'il va falloir déterminer, c'est de savoir qu'est-ce que savaient aussi les autorités françaises avant même qu'il y ait cette divulgation de la justice américaine pour effectivement, du coup, savoir si on aurait dû continuer d'enquêter, et si ça n'a pas été fait, pourquoi. Voilà. Alors, c'est peut-être là-dessus, moi, c'est pour ça que je pense qu'il pourrait être intéressant. On parle beaucoup de la commission d'enquête, d'une ouverture d'enquête par le parquet, etc. Là-dessus, en tout cas, moi, c'est l'angle sur lequel je trouve que la création d'une commission d'enquête pourrait être utile. C'est notamment d'avoir un regard sur ce qui s'est passé entre 2019 et 2023, au moment où justement on a la mort de Brunel et qu'a priori tout s'arrête. Pourquoi est-ce que tout s'est arrêté? Est-ce qu'on n'avait pas suffisamment d'éléments pour aller creuser ailleurs?
Parce que il y a le volet judiciaire, mais est-ce que vous pensez qu'une commission d'enquête parlementaire peut être utile ou pas?
Alors, je pense qu'elle peut être utile seulement sur certains points, notamment sur ce qui s'est déjà passé, sur la période antérieure, pour savoir comment ça a été traité. En tout cas, en revanche, à l'instant T, sur ce qui se passe actuellement, je pense qu'une commission d'enquête n'est pas opportune à l'instant T, peut-être après pour voir, mais là, avoir une commission d'enquête, alors même qu'on va probablement avoir une ouverture à un moment donné, une enquête diligentée par le parquet, je trouve que ça va se télescoper et je trouve pas ça très pertinent.
Merci Nathalie Buquet, avocate de l'association Innocence en danger. Merci d'avoir été avec nous, maître. Merci, bonne journée.
Quand on continue, parce que je sais que certaines personnes sont très émues qu'on continue à étudier Céline et à considérer Céline comme un grand écrivain, mais apparemment ça gêne personne dans nos élites, y compris nos élites les plus haut placées, puisqu'on sait que c'est une des œuvres préférées du président de la République, les nourritures terrestres de Gide. Les nourritures terrestres de Gide, faut quand même lire ce que c'est, faut quand même voir ce que c'est. Certains poèmes sont littéralement des odes à la pédophilie. Donc moi, encore une fois, je suis navrée, mais il y a des personnages, comme tu l'as dit, Olivier,
Roger Perfitte, il a écrit « Notre amour » dans les années 60, ouais, où il raconte son histoire d'amour avec un enfant de 12 ans.
Voilà.
Et à l'époque, il est interrogé par François Giroud, qui était pourtant... Ouais.
Dirigeante de l'Express.
Et qui trouve pas ça scandaleux, et qui même lui dit, oh bah écoutez, aujourd'hui, ce n'est pas scandaleux de dire que vous préférez les petits garçons aux femmes. On est en 1967, c'est d'ailleurs c'est une archive.
Voilà la belle époque.
Mais
de
la pédophilie
68,
était interdite par la loi à l'époque.
La belle époque de certains qui signaient des pétitions.
Oui, il y a eu des dérapages.
Donc moi, je suis... Oui, mais incroyable. André Gide, c'est encore avant. Et que des gens aujourd'hui encore viennent nous expliquer, bah André Gide, ça passe crème, mais par contre Céline, on peut plus le lire. Encore une fois, tout est dans géométrie variable selon ce que la gauche bien pensante décide de ce que vous pouvez lire ou pas.
Céline, tout
excusez-moi,
on le lit encore.
Il y a des textes de Céline qui sont inacceptables.
Pas tout, mais Voyage au bout de la nuit, ça.
Voyage au bout de la nuit, mais il y a des textes.
Il faut pas lire les beaux draps, par contre.
Voilà, il y a des textes qui sont absolument à vomir. André Gide, une grande partie de son œuvre est à vomir et le personnage encore plus. Excusez-moi.
On pose la question, est-ce que le Quai d'Orsay a étouffé l'affaire, oui ou non?
Allez.
On est dans un oui à 94%. Dans un instant, diminuer les allocations chômage après plusieurs mois, est-ce que c'est inéluctable pour tenter de remettre les gens à l'emploi? Vous venez en discuter avec nous, il est 11h-20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les grandes gueules aujourd'hui avec Yves Candebord, Laura Barton-Martinez et puis nous sommes avec Barbara Lefebvre. Il est 11h-15. On va s'intéresser à cette proposition des partenaires sociaux, ou plutôt de la CPME. La CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. Et vous savez que le gouvernement les a chargés, les partenaires sociaux, de réfléchir sur la question des ruptures conventionnelles, mais pour faire des économies. Mais du côté du patronat et de la CPME, on dit, ouais, d'accord, les ruptures conventionnelles, c'est bien, mais le plus important, c'est quand même de remettre les gens au travail. Et il y a une piste de réflexion de la part de la CPME, c'est la dégressivité, en fait, des allocations et des allocations chômage.
Oui, pour tous les chômeurs, hein, sans distinction, c'est ce que propose la CPME, l'allocation chômage serait dégressive pour tous les demandeurs d'emploi. Il s'agit de trouver des économies. Alors, bien sûr, c'est forcément une proposition qui va faire réagir. Il y a 1 milliard d'économies visées par cette proposition. Vous savez que l'assurance chômage, il faut trouver des sous. D'autant plus que le chômage repart à la hausse. Donc,
c'était le seul point que Macron il avait. C'était chouette.
Ah, attention.
Alors, il faut proposer, en fait, déjà, la dégressivité, elle existe pour les cadres. L'idée, c'est de l'élargir. Pour l'heure, par exemple, seuls ceux qui gagnent au moins 4 500 € brut par mois voient leur allocation diminuer de 30% au bout de 6 mois de chômage. Est-ce qu'il faut faire la même chose pour tous les chômeurs?
Alors, qu'est-ce que tu en penses, Yves?
Je pense que c'est une certitude qu'il faut faire des économies par rapport à ça et qu'il y a un abus certain. Mais après, la dureté de cette réflexion, c'est qu'on fait une fois de plus une globalité. Et que les gens qui ont qui cherchent un travail très spécifique, qui ont un diplôme très spécifique, et qui n'arrivent pas à trouver, un poste par rapport à leurs compétences, c'est délicat. Après, les gens qui ont pas de diplôme, les gens qui traînent, moi, je suis complètement d'accord qu'il faut instantanément réduire, parce qu'il faut travailler. Et ça permettra peut-être aux gens dans l'obligation.
Je suis assez d'accord avec toi pour le coup, Yves. Ce qui me dérange, alors moi je suis tout à fait d'accord avec l'idée de durcir les règles de l'assurance chômage. Là où je suis pas d'accord, c'est qu'on va mettre tout le monde dans le même panier. Ouais. J'estime que, je sais pas, une femme ou un homme de 55 ans qui est expert comptable, qui se fait licencier, il va peut-être galérer. Et moi je trouve pas ça juste le côté dégressif, parce que en fait le mec, il a fait sa carrière ou cette femme a fait sa carrière.
C'est plus compliqué pour lui de trouver un boulot.
C'est plus compliqué de passer 50 ans de trouver un boulot. Et puis pardon, sa vie, elle est quand même faite sur la base de son salaire. Donc, je serais plus d'accord pour aider une personne comme ça qui va avoir plus de difficultés. Par contre, moi, je suis carrément pour mettre une date limite de chômage jusqu'à peut-être 25-30 ans pour les personnes qui sont peu ou pas diplômées, comme c'était mon cas. Moi, je suis pas quelqu'un qui a fait énormément d'études. J'ai pas été au chômage. J'ai été au chômage de toute ma vie, un mois, quand j'ai déménagé pour faire Paris-Corse, le temps de faire mon déménagement. Donc, je suis désolée quand on n'a pas énormément de diplômes ou quand on est jeune et même si on est bardé de diplômes, eh ben, tu peux aller bosser. Il manque des plongeurs, il manque des femmes de ménage, il manque plein de choses. Enfin, je veux dire, je vois pas pourquoi les Français pourraient pas faire des métiers qu'ils considèrent des sous-métiers. Il y a pas de sous-métiers.
L'idée, c'est de dire que plus tu restes au chômage, plus c'est difficile de retrouver un boulot. Donc, c'est pour aussi inciter les demandeurs à tout de suite se remettre en marche vers l'emploi. Et donc, la dégressivité, bah, c'est forcément un coup près. Quand tu sais que tu as baissé 30%, tu t'actives.
C'est toute la dérive de l'égalitarisme. C'est-à-dire qu'il faut raser gratis. C'est comme quand on nous explique... Un fonctionnaire sur deux doit ne pas être remplacé. Moi, je veux bien qu'on remplace pas un fonctionnaire sur deux, mais je crois qu'au contraire, on a besoin de fonctionnaires dans la police. On a besoin de fonctionnaires dans la justice. On a besoin de fonctionnaires à l'hôpital, les médecins, les infirmières publiques. Bon, les profs, je peux pas dire qu'on en a besoin de recruter des masses, mais enfin, par exemple, dans les AED, c'est-à-dire les surveillants et l'encadrement, ok. Par contre, on a besoin que d'autres fonctionnaires, notamment la bureaucratie, qui s'occupe d'un faux management public, eux, on a besoin qu'ils dégagent et vite. Donc là, c'est pareil. C'est-à-dire que le cadre, comme vous l'avez dit, Laura et Yves, le cadre de 55 ans, qui a été viré comme un malpropre, lui, eh ben, il va avoir la dégressivité au même titre que le gars de 19 ans, qui a pas voulu faire de formation, qui a glandouillé toute sa scolarité, qui veut rester chez papa et maman et qui dit, oh ben, je vais attendre un peu, je vais rester au chômage. Ben, ils sont traités de la même façon. Oui. Voilà. Mais la plaie aujourd'hui, c'est ça, de notre république et de notre droit, c'est l'égalité qui devient l'égalitarisme. Et ça, c'est un vrai problème.
Est-ce que cette dégressivité, ça remet à l'emploi?
Alors, moi,
est-ce que ça te pousse?
Non, moi, je suis pas pour la dégressivité, je suis pour qu'il n'y ait carrément rien. C'est-à-dire, avant 25 ans, il n'y a pas de chômage. Voilà, c'est tout, tu vas bosser, c'est tout, point.
Bizarrement, c'est d'accord, ça dépend du métier, mais je trouve que
c'est nous qui payons,
Yves.
Moi, je pense que quand même, que ça va avoir un effet positif, quoi. Si tu sais que tu vas perdre tes allocations,
si t'as pas
obligatoirement,
de matelas,
tu vas te bouger un peu plus les fesses pour aller travailler, quoi. C'est une certitude. Moi, je suis pour, sauf, on dit tous pareil, sauf dans des cas spécifiques.
Des cas particuliers.
Voilà, que c'est fait, que sur des personnes qui c'est très compliqué pour eux de retrouver un emploi.
Bah, même une femme qui a élevé ses gamins, tu l'as remis sur le marché du boulot, exactement. Elle galère parce que elle a eu l'audace pendant 3 ans,
vous voyez, ses enfants. Toutes les structures, mais vous n'avez même pas idée, à l'éducation nationale, dans les missions locales, toutes les structures qui existent pour raccrocher des décrocheurs scolaires ou raccrocher des gamins sans diplôme, pour leur trouver des formations, leur trouver des emplois, ça coûte un pognon de dingue, là, pour le coup.
Est-ce que c'est vraiment efficace?
Et ça n'a aucune efficacité. Ben, c'est normal.
On fait des économies.
C'est normal puisqu'on met un coup de pied aux fesses à personne. Ah, tout le monde est fragile. Ah, ben, il fait trop chaud. Ah, ben, il fait trop froid. Ah, ben, je suis fatigué. Ah, ben, j'ai la grippe. Voilà. Ben, par contre, les couillons qui bossent, eux, comme des forçats jusqu'à 70 ans, ben, non, c'est pas grave. Eux, ben, ils peuvent continuer à cotiser. Pour ceux qui font rien, non, moi, je suis désolé. À un moment donné, stop.
Attention avec les jeunes aussi. Parce que les jeunes qui a fait des études, qui est allé chercher un diplôme.
Ah oui,
et qui a du mal, qui a du mal à trouver, celui-là qu'on l'accompagne. Mais celui qui n'a pas voulu faire d'études, celui qui n'a pas de diplôme, qui a fait un choix de ne pas le faire, celui-là, moi je suis comme Barbara, c'est zéro franc, zéro centime.
Et crois-moi, c'est surtout les non-diplômés qui sont...
On a Christopher qui va intervenir.
Ça a été mon cas, je veux dire, moi j'ai mon bac pro.
Fait un choix. On a le droit de faire des choix, il faut les assumer.
Hôtellerie, restauration, option européenne. Quand il n'y avait pas de boulot en Corse, je suis arrivée en Corse, il n'y a pas de boulot, c'est qu'à la saison. Moi, c'est même pas dans mon ADN. Mon père, il aurait pris un billet d'avion, il m'aurait attrapé, il m'aurait jeté au boulot. Ben, je suis allée servir des cafés dans un magasin. Bon, ben voilà.
C'est pas péjoratif.
Christopher,
100 balles de plus. On
veut intervenir dans les GG. Bonjour, Christopher.
Bonjour à tous.
Alors,
bonjour,
vous êtes couvreur de formation, c'est ça,
couvreur. C'est ça.
Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut effectivement aller vers les allocations dégressives?
Alors, bien sûr, parce que moi, du coup, j'ai monté mon entreprise il y a du coup un mois. Et aujourd'hui, je suis porté par le Pôle emploi pour lancer l'entreprise. Mmh. Et en fait, nous, dans ce cas de figure-là, on ne touche pas 100% de notre chômage, on touche que 60% de ce qu'on a. Donc, moi, je trouverais ça normal qu'avec le temps, ceux qui sont en recherche d'emploi aient le même traitement que nous, on a en créant des entreprises.
D'accord, pas de différence quoi en fait.
Bah ouais, parce que nous d'entrée, on sait qu'on n'aura jamais tout ce qu'on a, même on a cotisé.
Tiens, vous prenez un risque, on baisse et celui qui reste chez lui sans chercher, enfin ou qui cherche du boulot tranquillement, lui, on touche pas à ses allocs, quoi, en fait.
Mais tu regardes, moi, quand j'ai pris l'ACRE, c'est 75%, t'as pas le droit, tu récupères l'ACRE, donc ça veut dire que tu tires un trait, peut-être que c'est ce que Christopher a fait, tu tires un trait sur tes indemnisations chômage, donc s'il t'arrive une couillasse, bah, t'es pas couvert.
Un embêtement.
Et on te divise ton truc par deux et t'as que 75%. Là où celui qui va pas aller bosser, qui va pas prendre de risque, il va avoir 100% de son chômage.
Christopher, restez avec nous parce qu'on a Corinne qui nous appelle. Elle est en colère. Corinne, bonjour.
Bonjour les grandes gueules. Bonjour Malora.
Coucou. Bonjour. Je sais qui c'est.
Mais comment ça se fait, vous savez qui c'est? Ah, parce que vous
retrouvez ta cousine
au forum, c'est ça?
Oui. Sur le forum BFM. Oui.
Et oui, parce qu'il faut dire que le forum BFM TV, où c'est des Français qui interpellent des politiques, il fait son marché dans le 32-16 des grandes gueules.
Et Corinne
notamment.
Veut venir un jour en plateau. Hein.
Voilà.
Toi d'ailleurs exiger de Maxime Switek des droits d'auteur.
Ma chère Corinne, alors vous êtes en colère, pourquoi alors?
Mais parce que
vous êtes en recherche d'emploi, je le précise.
Mais absolument. En fait, j'ai 53 ans et en fait, depuis le mois de juin, je cherche du travail et en fait, je n'en trouve pas. Donc en fait, j'en ai un peu marre. Alors, je peux comprendre sur le chômage des jeunes, mais pour les seniors, c'est un vrai sujet. Et en fait, la deuxième question que je me pose, c'est qu'on rabote, et il va où l'argent, en fait? J'ai jamais de réponse. Hein.
Qu'est-ce que vous cherchez comme travail, Corinne?
Bah, écoutez, je suis dans l'immobilier de base, mais en fait, en ce moment, je vous apprends rien en vous disant que c'est un secteur qui est un peu à l'agonie. Donc en fait, là, je cherche à faire une reconversion secrétaire médicale. Et alors là, encore, c'est compliqué. Mais c'est pas le sujet. On va pas dire que mon sujet n'est pas le sujet. Des gens comme moi, il y en a beaucoup, des seniors.
Donc vous voulez qu'on arrête de taper sur les chômeurs, d'être la variable d'ajustement, quoi. En fait, c'est ça.
Je pense. Mais en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on rabote, on nous a enlevé un jour. Et en fait, la question est toujours la même. Il va où l'argent?
Il va au remboursement de la dette, chère Corinne. C'est le premier poste aujourd'hui de dépenses de l'État, comme en 1788.
Ouais, ben voilà, mais bon. Oui, mais
attention,
voilà,
la révolution arrive.
Toujours, oui, voilà, il rembourse la dette, il paye nos chers députés qui travaillent quand ils ont envie. Enfin bref, c'est un sujet, on pourrait y passer des heures. Mais c'est vrai que j'en ai un peu marre qu'on tape. Enfin, c'est toujours pareil, trouver du travail. Mais moi, j'en trouve pas, en fait.
Ouais.
Et je suis pas la seule, hein, parce que.
C'est-à-dire que pourtant vous bougez, quoi. Vous essayez la reconversion.
Je peux vous dire que je me bouge, hein. J'ai envoyé au moins, sans vous mentir, hein, au moins 300 CV. J'ai dû avoir 3 réponses.
Et là, vous touchez combien d'allocations, Corinne?
975 euros. Donc, parce qu'il rabote, Alors que
ça représente combien par rapport à votre salaire? Ça représente combien? Bah, c'est là que vous aviez le dernier?
Mon dernier salaire était à 1800 euros.
Ah oui, donc, c'est 3 fois moins, quoi.
Et en fait, si vous voulez, on touche, donc je bénéficie de la super réforme, de la dernière réforme chômage. Après, ils nous ont retiré un jour, donc maintenant, c'est plus 30 ou 31, c'est 30 jours pour tout le monde. Donc, un jour qu'on leur donne tous les deux mois, mais moi, je veux bien. Mais voilà, comme disait Barbara, ça sert à rembourser la dette, mais bon.
Vous dites, c'est pas là qu'il faut faire des économies.
Ah non, je pense pas que ce soit là.
Non, mais sur les jeunes.
Ouais.
Oui. Peut-être, oui. Après, les jeunes, Laura, c'est un autre sujet parce que.
Les jeunes, 20% de chômage chez les jeunes.
Et les seniors, hein, ce sont les deux catégories qui sont le plus au chômage, effectivement. Ouais. Merci Corinne et Christopher d'avoir été avec nous. Merci à tous
les
deux.
Corinne.
Et je vous souhaite surtout,
merci
Corinne, de retrouver rapidement du travail.
Après, bon courage à vous.
Vous allez devenir peut-être pigiste au forum de Maxime Switek, ma chère.
Après,
Corinne,
on sait jamais.
Enfin, je rappelle, vous n'êtes pas défrayé, pas payé.
Je pense qu'il y a une chose quand même qui serait importante, c'est que par rapport au SMIC, c'est qu'il y a une grosse différence entre les gens qui ont le cul au chômage et les gens qui travaillent. Voilà. S'il y a pas une énorme différence financière.
100 balles de plus.
Voilà. Mais c'est pas normal.
En allant travailler.
C'est pas logique.
En fait, j'étais payée, je faisais l'accueil d'un magasin de cuisine. Je faisais l'accueil, donc je disais bonjour aux gens, je leur servais un café, je nettoyais, etc. J'entretenais le magasin et j'assurais l'accueil. Et ben, en me levant tous les matins, en n'ayant pas toutes mes journées pour faire ma vie, je gagnais 100 balles de plus. Et comme je dépassais du SMIC, j'ai payé les impôts.
Ça aussi,
donc
ça
en fait
pas.
Finalement je pense que je gagnais moins d'argent en allant travailler.
Allez, dans un instant, à suivre avec
les GG, les gens qui travaillent.
Une vidéo d'un Leclerc où pour célébrer le nouvel an chinois, l'homme imitait les accents, l'accent chinois. Racisme, dit-on. Qu'est-ce que vous en pensez? À tout de suite au 32-16.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.